Chapitre 20. Je n'ai pas pu m'endormir. Mon insomnie était ridicule, bien sûr. Par elle, je n'espérais pas ressusciter les morts ni payer mon écho au drame humain. Mais je m'interdisais de glisser dans le sommeil apaisant quand tant d'autres hommes étaient morts dans des conditions dramatiques sans que quiconque ne leur tendît la main. Ce que j'avais vu m'avait de multiples façons profondément heurté. J'avais succombé au piège de la beauté de la mer, que j'avais prise dans son premier degré, sans savoir que ce qu'on me montrait était tout à la fois l'instrument qui avait provoqué une mort massive et l'impassible cimetière. Cette erreur de lecture faisait de moi un idiot impuissant, confortablement installé sur un canapé. Mais je m'interrogeais également sur la succession des plans, sur le montage que le réalisateur du reportage de la chaîne italienne avait choisi de constituer. On sentait dans son travail l'influence du cinéma, de la fiction, ou plutôt de la tension dramatique propre à certains films de fiction. Et cela aussi me hantait, comme si quelque part, par mon travail qui n'avait pourtant rien à voir a priori avec cela, j'avais une part de responsabilité, peut-être pas directement dans l'événement, mais en tout cas dans sa restitution. Je me suis rappelé la mécanique parfaite du début d'un des derniers films de Roman Polanski, The Ghost Writer. On voit tout d'abord, à la tombée de la nuit, un ferry s'approcher d'un port, y accoster, et des voitures ainsi que des passagers en descendre. Le deuxième plan montre la soute du ferry, vide de tout véhicule, à l'exception d'un seul que le propriétaire n'a pas récupéré et qu'on s'apprête à sortir à l'aide d'une dépanneuse. Dans le troisième plan, nocturne, on découvre des policiers qui examinent le véhicule débarqué sur le quai. Enfin, le quatrième plan, de jour, présente une plage sauvage battue par les vagues et soudain, dans ces vagues, on distingue la forme d'un corps que la mer roule et finit par rejeter sur la grève. C'est à ce type de grammaire qu'avait obéi le réalisateur de la chaîne italienne. Le drame réel n'avait pas suffi. Il avait fallu, par les cadrages, les valeurs des plans choisis, l'agencement de ces plans, le mettre en scène pour en exacerber l'horreur, la rendre sans doute plus consommable pour le spectateur qui ne peut désormais voir le monde, s'émouvoir, être touché, sans les grilles codifiées que lui proposent les images de fiction depuis des décennies et qui ont modelé son cerveau et sa sensibilité. Par une sorte de choc en retour, la fiction travaille le monde. L'univers cinématographique, avec ses codes, ses lois, ses archétypes, influence celles et ceux qui produisent des images à partir du réel. Il n'est qu'à voir comment les membres des organisations criminelles moyen-orientales, pseudo-religieuses, filment et post-produisent les décapitations d'otages pour se rendre compte que c'est bien à l'Occident hollywoodien qu'ils désignent pourtant comme le réceptacle de valeurs qu'ils honnissent et combattent, qu'ils empruntent leur langage. Leur pouvoir d'effroi, ne tient d'ailleurs qu'à l'image, car les meurtres qu'ils perpétuent n'auraient qu'un effet limité sur l'opinion si aucun site, aucun réseau n'en diffusait la captation. La responsabilité des serveurs comme YouTube, Dailymotion et bien d'autres est donc immense, puisqu'en acceptant d'accueillir de telles images, il contribue instantanément à les doter d'un pouvoir incommensurable et à travers elles, de garantir le pouvoir à ceux qui les ont fabriquées. L'aube commençait à laver de rose les toits de Paris. Par ma fenêtre, je regardais l'appartement d'Héléna et je devinais dans la chambre, sur le lit, la forme de son corps vulnérable et celle de sa chevelure que le sommeil avait disposée en éventail. Ce qui la recouvrait n'était pas la mer, c'était simplement la nuit qui commençait à se retirer, comme appelée quelque part, de l'autre côté du monde, par la force pendulaire de marée céleste. J'ai songé à toutes ces légendes que j'avais lues depuis l'enfance, de créatures vivant sous les mers, dans des palais de cristal, aux sirènes belles et fluides, glissant dans les courants, mêlant leurs larmes d'inconsolables délaissés au sel des profondeurs, à cet enfant de la haute mer de Jules Supervielle, aux plaintes des marins noyés, au Roi Rose de Pierre Macorlan et à tous les vaisseaux fantômes. La Terre, planète bleue, m'est alors apparue bleue de douleur, tuméfiée, grand corps constellé d'hématomes, dévorant avec constance des milliers de corps dans ces océans, ces tremblements de terre, ces avalanches, ces coulées de boue et ces glissements de terrain, ces folies guerrières, ces cyclones et tempêtes, comme une créature effroyablement primitive et tranquille qui réclame sa ration quotidienne de chair fraîche afin de pouvoir continuer à être ce qu'elle est, une belle et ronde indifférente qui tolère qu'on vive sur son dos à condition de ne pas trop l'irriter. Les cloches de Saint-Sulpice se sont mises à sonner à toute volée. Le battement des marteaux de bronze sur les volumineuses structures a fait vibrer les vitres du bar et jusqu'à la petite table de part et d'autre de laquelle nous étions assis, Florence et moi. La surface du café, que je n'avais pas bu, s'est ridée de cercles concentriques qui m'ont rappelé l'agitation d'une mare après qu'on y a jeté une pierre. J'ai repensé soudain au noyé de Lampedusa. Pourquoi m'as-tu appelé, moi, pour me raconter tout cela? Tu as d'autres oreilles désormais, non? m'a alors demandé Florence. J'ai quitté Lampedusa et l'ai regardé. Son beau visage était comme un ciel sur lequel j'avais vu passer le temps, les jours et les nuits, les pluies, les soleils, ma vie. J'étais perdu. Elle a réfléchi, soupesant les mots qu'elle allait me dire, hésitant à me les dire peut-être. Les cloches s'étaient tues. Et quand tu es perdu, c'est à moi de te retrouver, c'est ça ?